On commence une nouvelle Mishnah 27 à 1. Afasim la aitabichlad kol el. La Mishnah va commencer à nous apprendre plusieurs halakhot en ce qui concerne la Hashavat Aveda, la mitzvah de rendre une perte. Elle va nous apprendre tout ça d'un mot en plus, d'un mot supplémentaire dans le pasouk qui parle de cette mitzvah. Je dis comme ça. Af simla aita bichlal kol elu. La simla, le vêtement, faisait partie de tout cela. Alors qu'est-ce que veut dire la Mishnah? Pour comprendre ce que dit la Mishnah, on va passer dans le côté Gemara. Passez-vous donc dans le côté côté Gemara. Et on a Torah Or. On a Torah Or HaShalem en bas de la page. En bas de la page, dans le côté gauche de la page. L'extrême gauche. Gauche. Torah Or HaShalem. Voilà. Tout petit paragraphe. C'est le pasouk. Alors, le pasouk, il dit comme ça. Le pasouk qui parle donc de la perte, il dit « Vechen ta'aseh lachamoro, ainsi tu feras pour son âne, pour l'âne, vechen ta'aseh le simlato, ainsi tu feras pour son vêtement, vechen ta'aseh le chol avedat achicha, et ainsi tu feras pour toute la perte de ton frère, asher tovad mimenu, qu'il le perdra, ou metzata, et que tu le trouveras, le tuchal leit alem, tu ne pourras pas l'ignorer. » Donc, première chose qui saute aux yeux dans ce pasouk-là, on a vu ici qu'on devra faire de même pour toute perte, toute chose qui est perdue. Donc, pourquoi dans ce cas-là, tu as besoin de me dire, tu as besoin de me parler de l'âne, tu as besoin de me parler du vêtement? Puisque de toutes les façons, tout ce qui est perdu, il faut le rendre. D'accord? C'est inclus. Donc, la Mishnah commence en nous disant, maintenant on reprend la Mishnah, Afasimla aita bichlal kol elu. Le vêtement était déjà inclus dans tout cela. C'est-à-dire, il était déjà inclus dans la mitzvah de Shavat Aveda, dans la mitzvah de rendre, quand on a dit, le chol Aveda tachicha. De toute façon, la Gemara va expliquer. La Gemara va expliquer tout ce que ça veut dire. Mais la mayatzat, pourquoi la Torah l'a fait sortir, en d'autres termes. Quand on a, faire sortir, ça veut dire, c'est une expression en araméen qui veut dire faire sortir quelque chose d'une généralité.
Surligné.
D'accord? Voilà, tu le surlignes, tu le fais sortir d'une généralité. Tu l'exclus. Pourquoi tu l'as exclu? D'accord? Tu l'as mis à part. Léa qui chez Léa? Pour que toutes les pertes vont être comparées à elle. D'accord? Alors ça, c'est un des fameux principes qu'on a dans les 13 principes de la Torah. 13 principes de la Torah qu'on lit tous les matins. Juste avant Hodou. Qu'est-ce qu'on lit tous les matins juste avant Hodou? Dit comme ça. Donc c'est le principe numéro 8, Chet. Il dit comme ça. Kol davar shaya bichlal veyatsa mina klal elamed. Toute chose qui faisait partie d'un principe. D'une généralité. Donc le vêtement ici. Est-ce que le vêtement faisait partie de la généralité? Oui. D'accord? Bien d'accord.
Mais dans la phrase.
Oui. Dans la phrase, oui. Ça veut dire que le vêtement était déjà inclus dans la généralité. C'est-à-dire qu'en disant toute paire de ton frère, c'était déjà inclus. Veyatsa mina klal elamed. Et qu'il a été exclu de ce clal-là, de ce principe-là, l'élamed, d'accord? S'il a été exclu, c'est pour nous enseigner quelque chose. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Le l'élamed à la tsmoyatsa, et l'élamed à la klakulouyatsa. Le nouveau détail que ce cas va nous amener, on va pas l'apprendre que pour ce cas, mais on va l'apprendre pour tous les autres cas. Donc, ça veut dire comme ça. Imaginez-vous que je vous dis, la Torah te dit, ainsi tu feras pour toutes les pertes, et ainsi tu feras si tu perds une gmara. Je dis, attends, mais toutes les pertes, c'est la gmara, c'est la même chose. Non, gmara. Vêtements. Alors, ce qu'il y aura de particulier dans les particularités du vêtement devront être appliquées à tous les autres pères, toutes les autres pères. Parce qu'on a le principe que si le vêtement était déjà inclus dans la généralité et qu'on l'a exclu, c'est pour nous apprendre que toutes les particularités du vêtement, du cas qui a été exclu, devront s'appliquer sur la généralité. Donc en d'autres termes, ça veut dire quoi ici? Donc l'Omar Lecha pour te dire, ma simla, meyuchedet sheyesh basimani. Pour te dire, parce que vous remarquez bien que dans la Torah, elle ne nous a pas parlé de toutes ces sortes de simanim et de... Alors, rien de tout ça. La Torah, le pasouk de la Torah, il est là, c'est quelques lignes. D'où on sait qu'il y a besoin de simanim, il faut un siman dans l'objet, etc. C'est du fait que la Torah a rajouté le mot simla. De la même manière qu'un vêtement, il a toujours des simanim, parce qu'un vêtement, c'est toujours un signe. Il ne faut pas oublier que les vêtements de l'époque, c'était des vêtements qui étaient faits sur mesure, d'accord? Il n'y a pas des vêtements... Donc, tout vêtement a un siman. Il n'existe pas un vêtement qui n'a pas de siman. Un vêtement, il y a une touche. D'accord? Donc, de la même manière que un vêtement, c'est quelque chose qui a un siman, veyesh la tovim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a donc un propriétaire, forcément, qui la réclame, puisque c'est pas quelque chose qui est né de nulle part. Ça vient de quelque part. Ça a été créé par quelque part. Il y a un propriétaire. Donc, de la même manière, af, kol davar shiyesh bo simanim veyesh lo tovim chayav la'achlis. De la même manière, toute chose, tout autre objet qui a des simanim et qui a des gens qui le réclament, donc qui a un propriétaire, Chayav l'achiz, on a l'obligation de proclamer. Ça veut dire que c'est de notre Mishnah qu'on apprend que quand on trouve quelque chose, il faut avoir ces deux critères-là. Premièrement, qu'il a des simanim, et deuxièmement, qu'il a des propriétaires qui le réclament. Donc c'est d'ici qu'est venu tout le concept de Yehush. Je crois quand on dit qu'on considère qu'un objet est abandonné, on peut le prendre. Parce qu'on considère qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de propriétaire qui le réclame. Donc c'est les deux critères de la Shavat Aveda. Premièrement, que ça soit quelque chose qui a des simanim, c'est-à-dire qui a un signe distinctif. C'est-à-dire qu'un signe distinctif comme un vêtement, il y a une touche particulière qui le distingue des autres vêtements. Et deuxièmement, c'est quoi? Deuxièmement, c'est Veyesh Lotovim, ça veut dire qu'il y a des propriétaires qui le... Il faut qu'il y ait des propriétaires qui le réclament, donc, comme un vêtement. Et quand, par exemple, je trouve quelque chose par terre et que je pense qu'il était peut-être abandonné, parce que là, il n'y a plus personne qui le réclame, je peux le garder. Donc ça, c'est là, ça, c'est la Mishnah. D'accord? Maintenant, on continue.
Et pour là, qu'est-ce qu'on apprend?
Ah, là, on n'a pas encore parlé. Bonne question. La Gemara va parler de tout ça. Maï Bichal Kol Elou. Moi, je voulais déjà un peu expliquer dans la Mishnah, mais la Gemara va le développer. Elle dit, Maï Bichal Kol Elou. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu me dis dans la Mishnah, tu me dis que la simla, le vêtement, il était inclus dans tout cela. C'est qui tout cela? Alors, nous répond la Gemara, Amarava, Ravadi, Bichal Kol Avedat Achicha. Il était inclus dans le mot Kol Avedat Achicha, toute la paire de ton frère. Comme on a expliqué, vous vous rappelez le passage que je vous ai montré, c'est écrit que ainsi tu feras pour toute la paire de ton frère, donc le mot vêtement était en trop. Très bien. Amar Rava. Rava, il continue. D'accord? Rava, il continue. Il dit...
La Mali.
D'accord? Pourquoi tu me dis des quatre lavrachamana? Pourquoi la Torah a écrit Shor, Chamor, Se, Simla? La Torah a parlé d'un âne. La Torah a parlé... Donc d'un taureau, pardon. La Torah a parlé d'un âne. La Torah a parlé d'un agneau. Et la Torah a parlé d'une simla d'un vêtement. Alors, où on n'a pas encore vu, nous, les trois premiers cas, hein, le taureau, etc., on l'a pas vu. Je sais pas si en bas, il vous amène le pasouk. D'accord? Voilà. Alors, en bas, vous amène le pasouk. Voilà. Vous avez un hébreu? Quelle note? Note numéro
10.
Donc, en bas, dans la note numéro 10, il vous amène le pasouk, il dit comme ça. Donc, c'est en vérité le même chapitre que le taureau à côté, sauf que quand je vous ai montré, moi, ce que je vous montrais à côté, c'était chapitre 22 et
c'est ça.
Chapitre 3, et verset 1. Verset 3, c'était tout à l'heure. Là, maintenant, c'est le verset 1. Il dit comme ça, il dit, Lotir et Etchor Achicha, tu n'auras pas le droit de voir le taureau de ton ami, O Etseyo, ou bien son agneau, Nidachim, perdu, Veit Alam Tameem, et les ignorer. Donc, tu n'as pas le droit de les voir et les ignorer. Hachet Teshivem Lachicha, tu as l'obligation de les rendre, d'accord? Hachet Teshivem Lachicha, tu as l'obligation de les rendre à ton frère. Donc, là maintenant, ça nous complique encore plus les choses, parce qu'on voit que c'est pas seulement le vêtement qui est en trop, mais on a en plus le taureau, on a en plus l'âne, et on a en plus l'agneau. Donc il faudra dire que chacun de ces cas particuliers est venu nous rajouter une particularité qui devra s'appliquer à la généralité de la mitzvah de la Shavat Aveda, la mitzvah de Rendre Mitzvah.
Oui.
Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier à apprendre?
Autrement, c'est
en trop, ça sert à rien. Il n'y a rien en trop dans la Torah. Bon, c'est la question de la Gemara. Donc Rava pousse un peu plus la question de la Mishnah. Il dit qu'en vérité, c'est pas seulement le mot Simla qui nous dérange, c'est pas que le vêtement qui nous dérange, c'est aussi le taureau, c'est aussi l'âne, et c'est aussi l'agneau. Puisque de toutes les façons, tu m'avais déjà dit, l'école avait la tachicha, que toute la paire de nos frères, tu dois la rendre. Et répond Rava, il dit comme ça, il dit, triché, on a besoin. On a besoin, la Torah avait besoin de déterminer tous ces quatre cas. Pourquoi? Et i, katavrachamana simla, si la Torah avait écrit que le vêtement. On va commencer par la fin. Si la Torah avait écrit que le vêtement, Avamina, j'aurais pu penser, Anemile, dans quel cas on a l'obligation de rendre une perte, Be'edim des Goufas, Simanim des Goufas. Quand celui qui a perdu va être capable d'amener des témoins, donc les témoins ça peut être des Simanim, d'accord, donc des témoins ou des Simanim, sur, d'accord, Be'edim des Goufas, Simanim des Goufas. Ça veut dire que seulement si on peut trouver des Simanim sur le corps de l'objet. Parce que dans un vêtement, le siman n'est pas externe, n'est pas extérieur à l'objet. Le siman est sur le vêtement. Le siman est le vêtement même. Il y a d'autres cas dans lesquels le siman n'est pas sur le vêtement. Regardez par exemple, Aval Chamor, l'âne. Un âne, ça n'a pas forcément de signe distinctif.
Sauf s'il a été D'accord? marqué avec un...
Voilà, sauf s'il a été marqué. Mais s'il n'a pas été marqué, comme c'était le cas à l'époque, il n'était pas marqué. Donc le signe va être comment l'âne est habillé. Oui. Comment l'âne est habillé.
La selle.
Donc, si tu m'avais dit que le cas de Simla, que le cas du vêtement, j'aurais dû plus penser que dans quel cas on a l'obligation de rendre une paire seulement si c'est un siman très fort. C'est un siman dans l'objet. C'est l'objet même qui est un siman. D'accord ? Mais si c'est pas un siman dans l'objet, mais c'est un siman sur l'objet. Sur l'objet, c'est l'âne, il avait une telle selle, etc. D'accord.
Il
n'a pas été rajouté après. Voilà, exactement. Avalmé, Chamor, Be'edin de Oukaf, Be'simanim de Oukaf. Mais quand c'est un âne, que l'âne, de manière générale, en tout cas à l'époque, aujourd'hui c'est vrai qu'on a c'est marqué, mais en tout cas à l'époque, l'âne, le siman qu'il a, c'est un siman qui est sur le Oukaf, ça veut dire sur la selle. Alors, ou bien il y a des témoins qui vont témoigner, ou bien les témoins vont être les simanim. On est bien d'accord. Dans ce cas-là, Hema, j'aurais pu penser, l'homme adrénalé, j'aurais pu penser qu'on ne lui rend pas. D'accord ? On ne rend pas l'âne, mais par contre, qu'est-ce qu'on va rendre ? On va rendre le...
Exactement.
On va rendre, non, la selle.
Ah, oui, pour toi, la selle, c'est le...
Ah oui, c'est l'objet. La selle, celle qui avait un siman. Donc si tu m'avais dit que le vêtement, j'aurais pu penser, tu ne rends que la chose sur laquelle il y a le siman. Mais tout ce qui est avec, le paquet, tu ne rends pas. C'est intéressant. D'accord ? Du style, je trouve un porte-monnaie, d'accord ? Je rends que la carte d'identité, mais les billets...
Ah oui.
D'accord. C'est ça. On est en plein dedans, là.
Ouais.
Donc j'aurais pu penser, si tu m'avais dit que le vêtement, j'aurais pu penser que je dois rendre que l'objet même sur lequel il y a un siman.
Non.
Mais les objets qui sont liés à cet objet, non.
Donc là, ça inclut le...
C'est la question, là, non ?
Oui.
Ça inclut le...
C'est pour ça qu'on t'a rajouté l'âne. D'accord ? C'est pour ça, pour répondre à notre question, Katav Rahman Achamor. C'est pour ça que la Torah a écrit le mot Chamor. Voilà. Diafil ou Chamor, ben Siman Naoukaf, pour te dire que même si le Siman n'est pas sur l'objet même, mais le Siman est autour de l'objet, on devra rendre non seulement l'objet autour, ça veut dire la selle, c'est sûr qu'il faut la rendre, parce qu'elle a un Siman. Mais à part ça, il faut rendre également l'âne. Ça, c'est un chidouche. Bon. Alors, on n'a toujours pas répondu pour. D'accord. Donc, on a expliqué qu'est-ce que l'âne nous a rajouté par rapport aux vêtements. Très bien. Mais on n'a toujours pas expliqué. Qu'est-ce que le taureau a rajouté et qu'est-ce que l'agneau a rajouté ? Ça, on n'a pas encore expliqué. C'est pour ça que la Gemara pose la question. La Gemara a dit, attends, tu m'as répondu, mais je ne m'as pas répondu à 100% à ma question. Rava a posé la question sur 4 éléments. C'est quoi les 4 éléments qu'il a posé Rava ? Allez, c'est quoi les 4 éléments qu'a posé Rava ?
Le vêtement, l'âne.
Le vêtement,
l'âne et
l'agneau. D'accord, exactement. Donc le vêtement, l'agneau, l'âne et le taureau. Ouais. D'accord ? Bon, donc tu m'as expliqué ce qu'il y avait de... Tu m'as expliqué ce qu'il y avait de particulier sur le...
C'était 5, non ?
C'était 4.
Il y a 4 animaux.
4 animaux.
Et
non, 3 animaux.
J'ai le bœuf, l'âne et l'agneau.
L'agneau, ça fait 3.
Et le taureau ?
Et le vêtement. Oui, bon, enfin, le bœuf, le taureau, c'est la même chose.
Ah, ouais.
D'accord ?
C'est donc, une bagnole de l'époque. Cabriolet, un break, un machin, un tracteur. C'est le bagnole. Je
crois que...
C'est pas exactement la même chose, mais bon, ça s'apparente.
Moi, je vois 2...
Donc on dit comme ça. Dit, la Gemara pose la question, elle dit, Shor vese de kat avrahamana. Donc maintenant tu m'as répondu pour l'âne. Ok, l'âne m'a rajouté quelque chose que je ne connaissais pas dans le vêtement. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà appris ? Le vêtement m'a déjà appris quelque chose. Le vêtement m'a appris qu'une paire doit avoir, toute chose doit avoir des simanimes et elle doit avoir des propriétés qu'il a avec l'âne. Ok, ça on l'a appris du vêtement. Et l'âne, qu'est-ce qu'il m'a rajouté ? Qu'est-ce qu'il m'a rajouté l'âne ? L'âne, il m'a rajouté que même si les simanim ne sont pas sur l'objet, mais sur quelque chose qui est autour de l'objet, d'accord, je dois rendre. Par exemple, si je trouve une voiture avec une carte grise, je ne rends pas que la carte grise. Je rends la carte grise et la voiture, d'accord. Bon, alors...
Tu rends l'autoradio, c'est tout.
Ah, monsieur, l'autoradio, peut-être qu'il n'a pas été mis par vous. Je rends tout.
Une facture.
D'accord. Il dit, « Shor, VC, Dekat, Avachamana, maintenant, pourquoi la Torah... Pourquoi Rachamana, pourquoi la Torah a rajouté Shor, VC ?» Donc le bœuf et l'agneau. Pourquoi la Torah nous les a rajoutés ? A priori, ça, ils étaient déjà inclus dans l'école Avodat Hatorah quand la Torah dit que tu devras rendre toute la paire de ton frère. Pourquoi nous rajouter ce cas qui est a priori superflu ? Répond la Gemara. Dit Shor, on peut répondre, d'accord, on peut dire que Shor, pourquoi on nous a dit le taureau ? C'est pour nous apprendre « Deafilou l'egizat navo » même pour la tonte de sa queue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le taureau... D'accord, donc le taureau, donc il a des poils, et c'est des poils avec lesquels on peut faire certaines choses. Voilà, il a des poils très solides. D'accord, on peut tisser avec ça. Même c'est bon, c'est pas aussi fin que de la laine, mais on peut tisser avec ça.
Les poils d'éléphant,
oui, on fait beaucoup de choses avec.
Les bracelets,
donc c'est pour te dire quoi ? pour te dire que même si c'est davar muat, même si c'est quelque chose qui ne vaut pas une prouta. C'est-à-dire moi, par exemple, je trouve un taureau et j'ai coupé un petit peu des poils de la queue. Coupé. D'accord ? Je prends les poils et maintenant je rends. Je dis, bon, écoutez, je vous ai pris au passage quelque chose, mais bon, c'était insignifiant, ça ne vous dérange pas, ce qui compte, c'est que je vous ai rendu votre taureau. Est-ce que j'ai l'obligation de le rendre ?
Oui.
Oui. Même si ça part, même si c'est pas chavé prouta, c'est ce que Rachid explique. Même si ce que j'ai pris n'a pas une valeur d'une prouta, j'ai l'obligation de le rendre. Très fort, c'est en train de vérifier. C'est-à-dire, imaginez-vous, par exemple, que vous trouvez un objet. D'accord ? Vous trouvez un objet.
Et pourquoi on pourrait
trouver un téléphone portable, voilà.
Écoutez
bien ma question. Vous trouvez un téléphone portable. Et vous faites une communication en 10 secondes. D'accord, ça ne vaut même pas 5 centimes d'euros. 10 secondes. Est-ce qu'il faut rendre 5 centimes d'euros ?
Oui.
Écoutez, je vous ai rendu votre portable, il vaut 300 euros. On ne va pas s'arrêter sur des petits détails comme ça. Qu'est-ce que nous apprend la Torah en nous rajoutant l'âne ? Qu'est-ce que nous apprend la Torah en nous rajoutant l'âne ? Qu'est-ce qu'a de particulier l'âne ? Qu'est-ce qu'a de particulier l'âne que n'a pas
le bœuf
que n'a pas le... Non, pardon. Qu'est-ce qu'a de particulier le bœuf que l'âne n'a pas ? C'est que l'âne, en général... Ces poils ne sont pas de qualité, donc on fait rien avec, on les coupe pas. Et si on les coupe, on les jette. Il n'y a rien à faire avec. Donc, pourquoi la Torah nous a dit, nous a rajouté ici le taureau ? C'est pour nous apprendre la spécificité qu'il y a dans le taureau, pour nous dire que, donc on a appris trois choses déjà. Non seulement, c'est qu'il faut des simanimes, et il faut un propriétaire qui la réclame. Deuxième chose qu'on a appris, c'est que, même si le siman est sur un objet qui est autour, on doit rendre quand même l'objet. Ça, c'est la deuxième chose qu'on a appris. Et troisième chose qu'on a appris, c'est quoi ? C'est que même les choses qui sont liées, mais qui n'ont pas une valeur d'une prouta. Donc voilà, je vous donne un exemple. Une communication d'un téléphone portable, c'est une communication de 10 secondes. Ça vaut même pas 5 centimes d'euros, ça vaut pas une prouta. D'accord ? Là, dans ce cas-là, ça dépend quel forfait on a, mais bon, normalement, ça vaut pas une prouta.
Ça dépend où t'appelles.
Ça dépend où t'appelles aussi. D'accord ? Sur le coup de
fil.
Donc, il faut rendre ça aussi. Ça aussi, il faut le rendre.
Et d'où on sait,
d'accord ?
Ça ?
Parce que, qu'est-ce qu'elle avait de plus, le chor, le bœuf, en plus que l'âne ? L'âne, tu me l'as déjà dit. Qu'est-ce qu'il y avait de plus le bœuf par rapport à l'âne ?
Cette minuscule petite toison
oui.
Autour de sa queue.
La seule chose qu'il a en plus, c'est que lui, il a une queue qui vaut de l'argent. Le reste, il n'a rien de plus.
Mais elle vaut
en ce qui concerne la perte, il n'a rien de plus. Il n'a rien de plus. Il n'y a rien de plus dans le taureau, plus que l'âne. Il n'y a rien de plus. C'est la même chose. C'est un animal, et il n'a peut-être pas le siman en tant que marquage, mais il a un siman autour, c'est la même chose. Pourquoi la Torah me l'a dit en plus ? Donc la seule chose que la Gemara a pu trouver, c'est pour te dire que, pour t'apprendre que dans le taureau, d'accord ? Le taureau, ce qu'il y a de plus, c'est cette fameuse tonte-là, et pour t'apprendre qu'en vérité, c'est un principe qu'on devrait appliquer dans toutes les pertes, pour te dire que quand tu dois rendre quelque chose, tu dois rendre même ce qui est lié à la chose qui a une valeur de moins d'un prouta. C'est-à-dire que tu dois rendre tout le package. Bien que normalement, quelque chose qui a moins d'une prouta, est-ce que j'ai l'obligation de le rendre ? Non. D'accord ? Je trouve une pièce de 5 centimes dans la rue, et je pense savoir à qui elle appartient. Est-ce que j'ai l'obligation de le rendre ? Non. Parce que c'est pas la valeur d'une prouta. J'ai pas l'obligation de le rendre.
C'est quoi pour faire une prouta la valeur aujourd'hui ?
Le type, il a déjà
ça,
fait...
Ça, c'est un franc à peu près.
Il a déjà renoncé à retrouver une pièce de...
C'est-à-dire 15 centimes d'euros. À peu près, parce que c'est basé sur la valeur de l'argent.
J'ai perdu 40
euros
avant-hier, avant Shabbat. J'ai déjà renoncé, je me suis dit, pourquoi
c'est
un franc qu'il ait trouvé.
Combien t'as perdu ?
D'accord.
40 euros de billets de...
Non, mais la force d'une prouta... D'accord.
Je l'ai perdu.
La force d'une prouta, c'est quoi ? C'est que même si... La force d'une prouta, c'est que même si je sais à qui ça appartient, je l'ai vu les faire tomber, j'ai pas l'obligation de les rendre.
Je crois que c'est un qui a ramassé, d'accord.
On raconte une histoire de Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui est arrivé à Sodome, et il y avait un marchand qui avait une charrette avec des milliers de petits fruits dedans, des jujubes, des machins,
et
le jujube coûtait rien du tout.
Et toute
la ville est arrivée, tout le monde a pris un. Donc ils l'ont complètement dépouillé et ils ont dit, ça vaut moins qu'une prouta, donc il n'y a pas de problème. Mais ils l'ont ruiné.
Ouais, c'est ça. Donc voilà ce que nous a rajouté le chor. C'est pour nous dire que quand on rend une perte, non seulement qu'on doit rendre, même si le siman est autour de l'objet, pas seulement ça, mais à part ça, on doit rendre aussi, ça veut dire bien que normalement une perte qui a moins d'une prouta, on ne la rend pas, mais si déjà tu rends une perte qui a une prouta, ça, donc tu dois rendre tout ce qui est avec qui n'a pas de prouta. Je veux dire, ça peut aller très très loin. Imaginez-vous que je trouve une gemara, et dans la gemara, il y avait une feuille de papier. Est-ce qu'une feuille de papier, ça vaut une prouta aujourd'hui ?
Même pas.
Ça vaut rien du tout, une feuille de papier. Moi, je trouve la gemara, je prends la feuille de papier et j'ai écrit quelque chose dessus, je la prends pour moi. Est-ce que j'ai l'obligation de rendre cette feuille de papier aussi ?
Oui.
J'aurais pu penser que non.
Attends,
la feuille de papier n'a pas de prouta. Qu'est-ce qu'on a pris maintenant avec le chœur ? Oui. Il faut rendre même la feuille de papier. Et si tu l'as utilisée, il faut la rembourser. Parce que même si la feuille de papier en soi, elle n'a pas la valeur d'une prouta, Et puisqu'elle était, elle fait partie d'un package qui avait une valeur d'une prouta, il faut rendre également la feuille de papier.
Oui, le papier de soie, c'est plus.
D'accord. Bon.
Ah, il faut que ce soit détaché.
Oui. Ah oui, sinon, si ça fait partie d'un ensemble, c'est sûr qu'on doit rendre. C'est là le chidouche.
Ah, mais d'accord.
C'est
il est...
Alors, C. Et qu'est-ce qu'on a de spécial dans le C?
L'agneau.
Dans l'agneau. D'accord, on a écouté bien.
La
qu'est-ce qu'on a de spécial dans l'agneau qu'on n'a pas dans les autres animaux, qu'on n'a pas ni dans l'âne? Alors, essayez de me répondre à la question. Qu'est-ce qu'on a de spécial? Ne regardez pas la Gemara. Qu'est-ce qu'on a de spécial dans l'agneau qu'on n'a pas ni dans l'âne et ni dans le bœuf? C'est la laine, les tontes. D'accord. Donc, c'est... D'accord. Là, on parle vivant, hein, la pâture.
Ah oui.
Bon. C'est l'église au table. Pourquoi la Torah nous a rajouté également C? D'accord. Le C, c'est quoi? C'est pour nous apprendre les guisotas, pour nous apprendre les tontes. Que même les tontes, on a l'obligation de les rendre. Est-ce que ça vous va ce que je viens de dire?
Les tontes.
Les tontes.
Non, mais c'est le même principe que la...
Les tontes, ça veut dire mais... prendre la tondue, tu veux
c'est,
dire.
C'est le même principe que le bœuf.
Que le bœuf, bonne question.
Oui, c'est la même chose. Non, enfin non.
Bah oui, c'est la même chose.
Non, parce que le bœuf, c'est sur une partie du corps.
Oui, mais à plus forte raison. Si déjà les poils de la queue du bœuf qui sont insignifiants, tu me dis que j'ai l'obligation de les rendre, qui sont moins que chez Prouta parce qu'il faut le rendre dans les packages, à plus forte raison que les tontes de la laine qui vaut beaucoup plus qu'un Prouta, bien sûr qu'il faut les rendre. Ça marche pas ton histoire de C. Chor, j'ai compris, tu m'as rajouté quelque chose avec le bœuf, mais l'agneau tu m'as rien appris.
Ouais,
question de la Gemara. Mais dire Tavrachamana Chor, la Torah avait qu'à écrire Chor. La Torah avait qu'à écrire uniquement Chor le bœuf. Et que le bœuf va prendre des affilou les guisades navo. Que j'ai l'obligation de rendre même guisades navo, ça veut dire la tonte, d'accord? Non, pas la tonte, pardon, oui, la tonte de, donc de, les poils de sa queue, qui n'ont pas une valeur d'une prouta. Et à plus forte raison, chacun c'est les guisotaves. Et dans ce cas-là, j'aurais appris qu'à plus forte raison, l'agneau, que les tontes de l'agneau valent beaucoup plus qu'une prouta, c'est sûr qu'il faut les rendre. Donc, on retourne à la case départ. Enfin, pas sur tous les éléments, mais on retourne à la case départ sur l'élément C. Qu'est-ce que nous a appris les particuliers l'élément C? Pour l'instant, l'agneau, on ne sait pas ce qu'il nous a appris. On n'a rien trouvé de spécial qu'il y a dans l'agneau. Donc...
Bon, il est beaucoup plus petit. D'abord, il est mangeable.
Ah, alors, va voir.
Le bœuf aussi.
Ensuite, oui, mais il est beaucoup plus facile. Il est portable.
Et alors?
Pour un agneau sous ton
ça
bras.
Ça change pas.
Et le manger là.
Et alors? Ça change rien par rapport à la misère de rendre. Ça change pas la misère de rendre.
Il cherche une différence.
Ça change pas.
Ça change pas, mais tu vois quelle est la raison, c'est on va pas la deviner.
Alors,
oui, là vous risquez pas de la deviner, la réponse.
Deviner, là.
Vous risquez pas de la deviner, la réponse. Quand vous verrez la réponse, vous verrez qu'on risque pas de la deviner. Donc on dit comme ça. Aela Amarava, seulement Rava a dit. D'accord, Rava a dit, c'est une bonne question. Chamor, Debor, le Rabbi Yehuda, Seda Veda, le Divrei Hakol, Kashia. Écoutez bien cette question de Chamor, Debor. Alors, je suppose que vous avez dans les notes en bas, il vous amène le pasouk. Il n'y a pas un pasouk en hébreu? Voilà, en bas de la page, là. La référence numéro 15. Référence numéro 15. Mm-hmm. Vous avez
Veri, Iftar, Ish, Or, Oti.
Est-ce que vous avez le pasouk?
Ish...
C'est bon? Oui. Note numéro 15. Alors, je lis le pasouk. Donc, c'est un pasouk qui est dans la paracha Mishpatim, qui dit la chose suivante. Veri, Iftar, Ishbor. Lorsqu'un homme va ouvrir un puits. Donc, il ouvre un puits, ça veut dire qu'il fait un trou dans la rue. Venafal Shama Shor Ochamor, et dans ce trou va tomber un taureau ou un âne. Un taureau ou un âne, vous suivez? Donc bien entendu, c'est quoi la halakha? Celui qui a fait le trou devra rembourser tous les dommages et intérêts de. Donc il devra rembourser les dommages et intérêts au propriétaire de l'âne ou du taureau. Très bien. Et la Gemara là-bas, elle pose la question, d'accord? Elle dit pourquoi tu as besoin de me dire Shor Ochamor? Pourquoi tu me dis un taureau ou un âne? Si je me dis un taureau, qu'est-ce qu'il y a de spécial l'âne par rapport au taureau? Vous me suivez? Même si le question qui est ici. Et qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara là-bas? Elle répond, elle veut nous dire qu'en vérité, on a voulu nous apprendre un chidouche. Oui. Un taureau en général, est-ce qu'il porte des ustensiles?
Non.
Un bœuf? Est-ce qu'il porte des ustensiles? Non. Un âne en général, est-ce qu'il porte des ustensiles? Oui, il transporte. Il est fait pour ça. Il est fait pour transporter. Très bien. Il nous explique là-bas, il y a un avis qui pense, qui s'appelle Chachamim. Ils nous disent que, qu'est-ce qu'on apprend du mot Chamor? Pourquoi la Torah te dit que si un taureau ou un âne va tomber, c'est pour t'apprendre que si l'âne est tombé avec des ustensiles, et que les ustensiles se sont cassés, je ne rembourse que l'âne et je ne rembourse pas les ustensiles. Comment ils apprennent ça? Tu dis, voilà, tu vois bien. La Torah, elle t'a dit, lorsqu'un homme fera tomber un taureau ou un âne. Qu'est-ce que c'est de spécial l'âne par rapport au taureau. Qu'est-ce qu'il y a de particulier l'âne par rapport au taureau? C'est que l'âne transporte les ustensiles. Donc la Torah aurait dû te dire, quelqu'un qui fait tomber un taureau ou un âne et ses ustensiles. Du fait que la Torah a dit qu'un taureau ou un âne, ça veut dire que je ne rembourse que l'âne et je ne rembourse pas les ustensiles. Ça, c'est l'avis de Chachamim. D'accord? Mais Rabbi Yehuda, dans la Gemara là-bas, dans la Gemara Baba Kama, il est en machloket. Il dit non. D'accord? Il dit non, il dit moi, d'après moi, s'il y a un âne qui tombe, il faut payer aussi les ustensiles. Dans ce cas-là, retour à la caisse départ. Pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi tu m'as dit shor ou chamor, un taureau ou un âne?
Parce qu'on avait dit d'accord. À cause de
non, on parle même plus de la perte, là. On parle pas d'une perte, on parle du... Là-bas, un cas qui te dit comme ça. Par un chamishpati, maintenant, elle te dit, d'accord? Si un homme va faire un trou, et dans ce trou-là va tomber un taureau ou un âne, donc un trou qui est minimum haut de 10 farim, donc de 1 mètre à peu près, dans ce trou va tomber un âne, ou un taureau, donc un taureau ou un âne, pour être précis, et il va tomber, on devra rembourser. Alors qu'est-ce qu'ils disent Rahamim? Rahamim, ils disent que de là, on apprend que je ne rembourse pas ce que l'animal transportait. Rabbi Yehuda dit non, moi je suis pas d'accord.
Oui, puisqu'on a parlé de deux animaux.
D'accord.
Pourquoi on l'a cité deux?
Alors, Rabbi Yehuda dit, moi je suis pas d'accord. Rabbi Yehuda dit, il faut rembourser aussi
ce que l'animal transporte. D'accord. Alors,
donc dans ce cas-là, ça sert à rien. Ça sert à rien de citer les deux. Tu m'as rien rajouté.
Je peux avoir une explication.
Oui.
Pourquoi deux? Parce que deux, ça nous étend à tout animal.
Mais là, dans ce cas-là.
Non, un seul, on peut dire que ça peut être que l'âne qui tombe dedans et pas les autres.
Oui.
Donc, quand j'en cite deux.
Parce qu'en général, la Torah, quand on a le nom d'un animal, c'est une règle. Il n'y a pas de. Sinon, dans ce cas-là, elle aurait dû dire tout animal.
Oui, on a dit deux, c'est-à-dire que deux, c'est tout.
Ah, parce que là, au contraire, je veux dire, voilà, char ou chamor, ça veut dire que le char ou le chamor.
Si c'est une poule, ça marche pas.
Alors, on peut aujourd'hui,
dans le droit des assurances,
c'est une poule équipée.
Celui qui fait un accident avec un objet précieux dans sa voiture, s'il n'a pas assuré indépendamment de la voiture l'objet précieux, il n'est pas remboursé.
D'accord.
Non, mais ça, t'es pas un âne, tu n'as rien à voir.
Oui, il a raison.
Non, mais le droit de biblique, il a influencé le droit international du code des assurances et des remboursements.
Non, attendez.
C'est en plus,
c'est pas
réciproque.
D'accord.
Oui.
Ça veut dire si quelqu'un, par exemple, voilà, on va prendre un cas très simple. Si par exemple quelqu'un me rentre dedans en voiture, donc ça veut dire que moi, il a un tort à 100%.
Chaz shalom.
D'accord. Ah, ok. C'est que le dommage c'est son co-matériel. D'accord. Chaz shalom aussi. Donc il me rentre dedans en voiture, d'accord. Et que, comme vous dites, j'avais un objet précieux dans ma voiture. Donc vous dites que les assurances ne vont pas me rembourser l'objet précieux.
Ouais.
C'est ça. Donc voilà, c'est la vie de Rabbi Yehuda.
Ça c'est l'assurance.
C'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit, on rembourse. D'accord, on rembourse que le chamor, mais on rembourse pas les kelim que le chamor portait. Bien que, d'accord.
Excuse-moi, mais il y a les bœufs qui portent. Hein.
Ah, imaginez-vous que je conduis un camion Brinks, et quelqu'un qui me rentre dedans et que les billets ils tombent. Bien que le Brinks,
il brûle.
Le Brinks, il est fait pour transporter des billets. D'accord. Selon Rabbi Yehuda, si toi t'as une assurance particulière pour rembourser tes billets, tant mieux. Mais moi, je te rembourse pas tes billets. Moi, ma voiture, c'est comme si je suis en train d'une voiture. Je paye le chamor, c'est tout. Je paye pas ce que le chamor transportait. Ça va très loin, hein.
Mais comment il a dit ça?
Parce que Rabbi Yehuda, il te dit, d'après moi, au contraire, c'est Chachamim qui ont voulu rajouter quelque chose. Chachamim, ils ont dit, puisque la Torah a dit un taureau ou un âne, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la Torah a dit un taureau ou un âne? Pourquoi tu me dis ou un âne? Je sais déjà, tu vas dire un taureau, ben un âne aussi, c'est la même chose. Pour te dire non. Que si c'est le cas d'un âne, tu devras rembourser que l'âne et pas les ustensiles. Parce que sinon, la Torah avait dû te dire un taureau ou un âne et ses ustensiles. Rabbi Yehuda dit non, doucement, c'est pas tout ça. Alors dans ce cas-là, à quoi ça sert le mot chamor? Pourquoi tu m'as dit un taureau ou un âne? L'âne est en trop. Alors écoutez bien, non, c'est pas compliqué, il n'y a pas de réponse à la question.
Ouais, mais moi j'en donne...
D'accord, attendez, écoutez bien.
Il n'y a pas
d'accord.
De réponse.
Donc, chamor débord le Rabbi Yehuda. Donc je relis les mots de la Gemara. Rava nous répond à la question, il dit comme ça. Il dit chamor débord le Rabbi Yehuda. Le chamor, donc le mot chamor, dans le cas du bord. Oui, chamor débord, c'est deux mots, hein, mais si on n'avait pas le rachis, on n'aurait pas compris.
On fait des rimes.
D'accord. Chamor débord, le chamor du cas du bord. Donc on a compris maintenant. Le chamor du cas du bord. Les Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda.
S'il est mort.
C de Aveda. Et le mot C de la perte.
Il n'y aura pas de remords.
Les divrei akol, selon tous les avis. Kashia, on a une question. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi ils ont été écrits.
C'est pas résolu.
Alors la Gemara va essayer de résoudre. Rava au Beth Amidrash, en tout cas, Rava dans le Beth Amidrash, il a dit, sachez, ces deux cas-là ne sont pas résolus. Le chamor, selon Rabbi Yehuda, on ne sait pas à quoi il sert, selon Chachamim, ça servait à quelque chose, pour te dire que je ne paye que l'animal, mais pas ce qui est transporté. Selon Rabbi Yehuda, que ce principe ne s'applique pas, à quoi sert chamor? On ne sait pas. D'accord? On ne sait pas. Et également, le cas de C, Dans le rappelez-vous le cas de C dans la Perse, on a dit que le C nous a rien rajouté, puisque le C, on a voulu dire que le C rajoute les tontes, mais les tontes, on le savait déjà, des poils de la queue du taureau.
Ouais. Oui, mais ça n'a rien à voir.
Non, c'est les mêmes concepts.
Si, c'est vrai. À quoi
ça sert ? Calva Romer a plus forte raison. Si, déjà, ces poils-là qui avaient une valeur moins d'une prouta, je dois les rendre, a plus forte raison que les tontes qui ont une valeur beaucoup plus d'une prouta. Ça vaut cher, les tontes d'une laine.
D'accord.
Alors, qu'on donc ça veut dire, attends deux secondes, donc ça veut dire qu'a priori le mot C est en trop. Kashia. Alors c'est pas qu'il est en trop, c'est que Kashia, ça veut dire qu'on a une question, on sait pas à quoi il sert. On est sûr qu'il sert à quelque chose, mais on ne sait pas. La Gemara va essayer de se défendre après. Elle va dire, attends, mais peut-être qu'il est venu pour ça. On n'a pas fini encore. Elle n'a pas dit son dernier mot. Mais Rava Obet Amidrash a dit, il n'y a pas de réponse. Et ce sera la conclusion d'ailleurs. La conclusion, ce sera qu'il n'y a pas de réponse. D'accord. Attendez. La Gemara va essayer de donner plusieurs hypothèses pour le. D'accord. Mais à chaque fois, la Gemara va dire que ça ne marche pas et on va rester sur cette conclusion. Bon. Alors.
Mais Rabbi Yehuda, sur quoi il se base
pour dire Rabbi Yehuda, il se base pour te dire que la Torah ne t'a pas dit qu'il ne faut pas rembourser les ustensiles.
Non, mais il faut qu'il s'appuie sur quelque chose.
Non, au contraire. C'est Rahamim qui ont rajouté quelque chose ici.
Mais eux, ils ont un appui sur lequel ils peuvent
oui.
dire qu'il est.
Bah, lui, d'après moi, c'est pas suffisant. Dans ce cas-là, la Torah avait qu'à dire Shor Ochamor Bilvad. Un chor ou un chamor seulement, pas avec ce qu'il transporte. Pas d'ambiguïté. Donc selon Rabbi Yehuda, il dit, moi j'accepte pas. C'est Rahamim qui ont innové ici. La Torah n'a rien dit de tout ça. La Torah, elle a juste dit chor ou chamor. Un taureau ou un âne. Rahamim, ils ont dû dire, ah, puisque du taureau, on aurait pu apprendre l'âne et que tu m'as rajouté l'âne, ça veut dire que je rembourse que l'âne et pas le distance. Rabbi Yehuda, doucement, c'est pas écrit. C'est pas écrit tout ce que vous dites. Là. D'accord.
C'est quand même bizarre, en plus. Si tu rembourses que l'âne et pas le distance,
c'est
bizarre.
Non, c'est pas bizarre. Ah non, c'est pas bizarre du tout.
Tu fais un trou, etc.
Pas
tu l'as
du
mal
tout, c'est pas bizarre parce que regarde bien. D'accord. C'est comme dans le cas de la voiture. C'est pas ma responsabilité si dans ta voiture tu transportais de la marchandise. Moi je dois te rembourser la voiture. Ça la voiture, je suis assuré pour ça. Mais c'est pas mon problème si dans ta voiture tu transportais un objet qui a été cassé. Transporter des objets en cristal qui ont été cassés.
Et qui me dit qu'ils n'étaient pas déjà cassés?
Pas seulement ça, même si je sais qu'ils ont été cassés par mon choc. Je sais, j'ai vu. Mais je t'ai pas demandé, personne t'a demandé de transporter les objets en cristal, c'est ta responsabilité. Ça c'est la logique du Chachamim. C'est la logique du Chachamim qui disent tu rembourses que l'objet, tu rembourses pardon que l'animal et pas ce qui est transporté. Rabbi Yehuda dit non. Bien entendu, Rabbi Yehuda n'est pas majoritaire, donc la halakha n'est pas comme lui. D'accord ? Donc ça veut dire que on rembourse que l'âne et on rembourse pas ce que l'âne transporte. Mais selon Rabbi Yehuda, le mot chamor ne sert à rien a priori.
Donc enfin, c'est pas tranché quoi.
Non, j'ai pas dit que c'est pas tranché, j'ai dit que le mot chamor est en trop. D'accord ?
De la manière, c'est pas tranché.
Donc si en fait, Rava Obet Amidrash, donc en fait, c'est aucun rapport avec le cas de la perte. Rava Obet Amidrash, il leur a dit le chamor du cas de bord, d'accord ? Donc selon Rabbi Yehuda, et le C, l'agneau, dans le cas de Aveda.
Où tu l'appelles le C ?
C.
C'est un agneau.
Le C, l'agneau.
Ah, c'est en hébreu, d'accord. C'est l'agneau.
C, ouais. Ouais.
Ah, c'est le cas, le C, le troisième...
D'accord, donc, le dire à
col,
Kashia, il y a une question. Bon, la Gemara va essayer de dire, attends, doucement, on a peut-être une réponse. Moi, je vais te trouver quelque chose qu'a le C, d'accord, qu'a l'agneau, que les autres animaux n'avaient pas. Bon, on est preneur.
Ah ouais.
Mais Emma, j'aurais pu penser...
Production.
Les glalim ou data. Bah, attendez, deux secondes.
Les autres,
L'agneau, écoutez bien ce qu'il a l'agneau.
Bien, Daniel.
D'accord. Écoutez bien ce qu'il a l'agneau. L'agneau a quelque chose en plus. C'est qu'un agneau, on le fait rentrer à la maison.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
D'accord. Seconde.
C'est petit.
C'est grande maison.
Attendez. Et alors, un agneau, les animaux en général, ils font les excréments. Qu'est-ce qu'on fait avec les excréments d'un animal ?
L'engrais.
Très bien. Imaginez-vous maintenant que l'agneau, il vient chez donc vous l'amenez chez vous à la maison pour le garder, et il vous fait caca en plein milieu du salon. Qu'est-ce que vous faites avec les excréments?
Je me fais payer mon tapis par celui qui a perdu
d'accord.
L'agneau.
Non, j'ai pas de tapis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois lui rendre les excréments? C'est de l'engrais?
Oui. C'est pas
combien de temps après.
Ça dépend si c'est moi qui le nourris.
Non, combien de temps après?
Je vais lui donner une fina.
Si je le nourris. Bah attends, c'est moi qui lui ai à la manger, donc.
Alors,
c'est là ou quoi?
C'est des excréments.
Emma, donc pose la question à la Gemara. Emma, je vais peut-être te dire l'iglalim ou data. Qu'est-ce qu'il y a de particulier le taureau, l'agneau par rapport aux autres animaux? C'est que l'agneau, il peut avoir des excréments dans une situation qui est délicate. Et que là, dans ce cas-là, la Torah a voulu te dire, je te rajoute l'agneau pour te dire que même ces excréments-là, il faut les rendre. Et si tu ne veux pas les rendre, il faudra les rembourser. Et moi, je dis non. Glavine, Mafkore, Mafkare, il ne faut pas exagérer non plus. D'accord? Les excréments, les excréments que tu as fait, qu'il t'a fait à la maison, le propriétaire les a déjà abandonnés, d'accord ? Lui, ce qu'il veut, c'est que tu gardes son animal, il est très content que tu gardes son animal à la maison et que tu ne l'as pas mis dehors. Parce que c'est ça le problème, en réalité, vous avez compris le problème ?
De l'agneau ?
Oui. C'est que si tu gardes l'animal dehors, là, dans ce cas-là, il aurait récupéré les excréments. Mais là, tu le gardes chez toi à la maison. Et bon, il fait des excréments, il faut les... Le propriétaire de l'animal préfère que tu gardes ton animal chez toi à la maison et il est prêt à abandonner les quelques excréments qu'il va perdre. Donc c'est pas une bonne réponse. Ça voulait me dire que qu'est-ce qu'on a rajouté avec les excréments, qu'est-ce qu'on a rajouté avec l'agneau ? On a rajouté les excréments éventuels,
à
d'accord, à l'intérieur de la maison. Je dis non, non, non. Le propriétaire initial abandonne ces excréments-là. Il est déjà content qu'on le garde son objet à la maison. Donc c'est pas ça.
Donc c'est pas ça.
Donc c'est pas pour ça. Donc le mot c'est toujours en
trop.
Sur l'âne aussi. Il aurait été content qu'on lui rende son âne et s'il a perdu les deux ou trois colis.
Bonne question. Mais dans l'âne, c'est pas la même chose. Parce que dans l'âne, je le garde dans une cour. Dans une cour.
Alors, tu sais, à l'époque, les gens, ils habitaient. Les sables étaient dans la
maison.
Mais
les excréments de l'âne, d'accord. Les excréments de l'âne, je suis pas obligé de les jeter.
Non, non, et à l'époque, c'était dans la même maison. Hein.
Non, l'âne.
Si.
Il était garé
devant la maison.
Il était garé devant la maison.
Oui, c'est pas un.
Ou une étable. Une étable qui était peut-être une pièce de la maison, mais. On gardait l'excrément, ça valait très cher l'excrément.
Oui, non,
mais
j'ai résisté à l'âne.
Je sais pas ce qu'on peut donner avec les excréments.
Toujours, on fait l'engrais.
On fait toujours l'engrais.
Évidemment. Ça, c'est l'engrais bio. Parce que maintenant, ils mettent des trucs dans la terre.
Ouais.
De l'azote,
on le gardait, attention, on le gardait, bien sûr. Ça avait une valeur d'argent.
Ah oui,
on le gardait, c'est pas de la blague.
Oui, mais je
comprends. Bon, seulement le problème, c'est que le problème du C, c'est que ça peut arriver quand t'es chez toi à la maison. Et là, bon, je viens garder, mais faut pas exagérer non plus. À l'âne, je dis bon. Ça, le propriétaire initial les a abandonnés. Donc le mot C n'est pas venu pour ça. Alors il est venu pour quoi ? Autre hypothèse de la Gemara. Vedilma, peut-être, les simanim ou deata. Peut-être le mot C est venu nous apprendre les simanim. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être qu'il est venu nous apprendre que l'obligation qu'on a de rendre une perte à ses propriétaires, d'accord, selon les simanim, c'est Minatora. Alors écoutez bien qu'est-ce que veut dire ici la Gemara. C'est Ibayalan, parce qu'on a eu une question. C'est une question qu'on va poser un petit peu plus loin dans la Gemara, c'est en bas de la page. Juste en bas de la page, ici, en bas de la page Ravzaïm. D'accord ? En bas de la page 27a. On a posé la question suivante. Simanim deoraita ou derabanan. Le fait qu'on rend une perte avec les simanim, avec des signes. Est-ce que c'est de la Torah ou est-ce que c'est des Rachamim ? La question est la suivante. Ça veut dire comme ça. Est-ce que normalement, selon la Torah, on ne peut rendre quelque chose que s'il y a des témoins ? Et que là, dans ce cas-là, les simanim, c'est pas un témoin, mais que bon, c'est quelque chose que les rachamim ont instauré, parce que sinon, on n'en finit plus. Hein, j'achète un objet, je dis, regardez, des témoins, vous avez vu ? Hein, voilà les simanim. On n'en finit plus. S'il faut à chaque fois les témoins, on n'en finit plus. Donc ça veut dire, est-ce qu'on va dire que c'est une takana des rachamim ? Ou est-ce qu'on va dire que c'est minatora, que la Torah considère que les simanim, dans le cas d'une perte, sont considérés comme des témoins ? Parce qu'il faut savoir que dans la Torah, on a toujours besoin de témoins. Très bien. Donc la Gemara pose la question suivante. Elle dit, est-ce que les simanim sont de la Torah ou est-ce que les simanim sont des Chachamim ? Et peut-être que j'aurais dit que le fait que la Torah m'a rajouté le mot C, a priori le mot étant trop, je vais te dire, voilà ce que la Torah a voulu me rajouter. Peut-être que Katavra Chamana C, Dafilu Besimanim Madrinan Besimanim Doraita. Qu'est-ce qu'aurait de spécial le C en plus que les autres ? Il n'y a rien. Donc la seule chose qu'il peut avoir de plus, c'est pour te rajouter le chidouche, que même si ce n'est pas des témoins et que c'est un simad, j'ai l'obligation de rendre. Donc peut-être on peut dire ça.
Quoi ? J'ai rien compris là.
Encore une fois. La Torah m'a dit quatre choses. D'accord ? La Torah m'a parlé
du vêtement.
Ça, le vêtement, on a expliqué à quoi ça sert.
De l'âne.
On a parlé de l'âne. L'âne, on a expliqué que c'est pour nous apprendre.
Les objets.
L'âne, c'est pour nous apprendre que... Non. L'âne, c'est pour nous apprendre que... Même si le siman est sûr...
Les objets autour.
Est sûr.
Les objets autour.
Sur lui, mais pas dans lui. On a l'obligation de rendre.
D'accord.
Le taureau, il m'a rajouté quoi ? Le bœuf ?
La queue,
même la queue, qui même si elle est d'une valeur insignifiante, j'ai l'obligation de rendre. L'agneau, à quoi il me sert, M. Bismuth ?
On ne sait pas.
A priori, à rien. Donc, puisqu'il sert à rien, donc il faut bien dire qu'il sert à quelque chose.
Alors, on dit qu'il sert pour la...
Alors, je vais te dire qu'il sert... Écoutez bien. Non.
La
tente, on ne peut pas dire, parce que la tente, on le savait déjà. Donc, il doit servir à quelque chose. Il doit m'apprendre quelque chose. La Gemara dit peut-être que je vais t'apprendre quelque chose. Je vais te dire que qu'est-ce qu'il va t'apprendre ? Il va t'apprendre, non, les excréments, non, parce que les excréments les abandonnent. Donc qu'est-ce qu'il va t'apprendre ? Il va t'apprendre que dans les trois premiers cas, j'aurais pu dire que tu les rends pas avec les simanim, mais tu les rends avec des témoins. Il faut qu'il y ait des témoins qui ont vu et qui reconnaissent son objet. Parce que dans la Torah en général, c'est les témoins qui font force de loi. Et que pourquoi la Torah m'a rajouté un quatrième cas ? Pour te dire, il y a une embrouille dans le cas de la perte, il faut faire attention, il y a quelque chose de spécial, plus que les autres. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus que les autres? C'est que dans le cas de la perte, on aurait voulu t'apprendre que, pas comme d'habitude, ne te base pas que sur les
témoins,
mais tu peux te baser également sur les simanis.
C'est vrai, grand-père.
Ouais. Tu veux?
Non, mais tu peux me répéter 400 fois, s'il te plaît?
Je vais expliquer. C'est comme si...
J'espère qu'il n'y aura pas besoin de 400.
C'est comme si je viens, je te dis, regarde, je viens voir Yaakov, d'accord, je viens te voir Yaakov, je dis, tu vois ça, je veux voir un enfant, je dis, ça s'appelle un livre.
Jusque là, ça va.
Tu vois, ça s'appelle un livre, ça. Je viens voir un enfant, je dis, tu vois ça, quand tu as un objet comme ça, avec du papier, qui est relié, et avec une couverture comme ça, cartonnée, ça s'appelle un livre. Et après, je lui montre un autre livre, Magmara, qui est bleu, je lui dis, tu vois ça, ça aussi, ça s'appelle un livre. Enfin, il dit, mais papa, je sais déjà. C'est vrai qu'il n'a pas la même couleur, mais je sais déjà. Si il avait du papier et il avait une couverture cartonnée, tu m'as dit c'est un livre, l'autre livre il a peut-être une autre couleur, mais peut-être autre chose qui est écrit. Mais si c'est également du papier recouvert avec du carton, c'est aussi appelé un livre. Donc dans la Torah, il n'y a rien qui est en trop. Donc si tu me l'as répété deux fois, ça veut dire que tu veux que je fasse travailler mon spielblick. Non.
Ouais.
Là, alors, les différences, on a dit, il n'y a plus de différence maintenant. C'est les mêmes.
Pourquoi il l'a dit alors?
Très bien. Donc les différences, on les a déjà toutes trouvées. Il n'y a plus d'autres différences. Donc il faut trouver autre chose. C'est-à-dire que la Torah veut que tu travailles ton schmilblick et que tu cherches autre chose encore. La seule chose qu'on peut trouver ici, c'est quoi?
La couleur.
D'accord? Non, la couleur c'est fini, c'est pas un ciment. Là, on a tout enlevé. Dans le cas de la perte, on a tout enlevé. Toutes les différences possibles, on les a trouvées. Donc c'est quoi la seule chose qu'on peut rajouter? C'est le fait de dire que dans les trois premiers cas, si tu m'avais dit que les trois premiers cas, j'aurais pu penser qu'il faut des témoins. Et c'est logique. Là, vient te rajouter un quatrième cas pour te dire, fais travailler ton schmilblick. Il y a quelque chose, il y a un détail qu'il faut que tu cherches ici. D'accord? C'est quoi ce détail que tu dois chercher? Le détail que tu dois chercher, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu comprennes que la Torah veut t'apprendre un chidouche, qu'on peut se baser même sur les simanim, qu'il n'y a pas besoin de témoins.
En l'occurrence, ce serait quoi les simanim?
Ben, les simanim d'un objet, normal. Pas besoin d'un témoin.
Un agneau.
Encore une fois, n'oubliez pas. Il faut bien comprendre. Les simanim, même de la selle.
Mais là, il n'y a pas de selle sur un agneau.
Du vêtement. Enfin, c'est vrai,
pourquoi, un agneau couvert. Pourquoi les témoins d'abord?
Parce que dans la Torah, c'est toujours les témoins qui font force de loi. Si je viens, imaginez-vous.
Je viens, je dis voilà, j'ai perdu un objet.
La selle est là. Jacob, il dit, j'ai trouvé un objet. Je viens le voir, je dis, c'est mon objet. D'accord? Très bien. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de faire sortir quelque chose de ton domaine.
J'ai mes voisins,
d'accord,
qui peuvent venir
témoigner que c'était là. Attendez. Jacob a un objet dans la main, je vais lui dire, cet objet n'est pas le tien, mais il est le mien. Amoti mechavero, alav, areaya. Si je veux faire sortir quelque chose de ton domaine, il me faut une preuve. On est bien d'accord. Il me faut une preuve. Qui dit preuve, ça veut dire quoi preuve? Ça veut dire que, ou bien il me faut une preuve, c'est-à-dire un contrat, une facture, c'est bien, bon, c'est une facture, pas de problème. Ou s'il n'y a pas de facture, il me faut des témoins. Est-ce que les simanim rentrent dans ces deux catégories? Non. Les simanim ne sont ni une facture, et ils ne sont pas non plus, un témoin. Donc d'où tu sais que les simanim ça marche? Ça, les simanim ça marche pas. C'est pour ça qu'Akmara va poser la question suivante. Bonne question. C'est pour ça qu'on va dire ça. C'est pour ça que l'Akmara va poser la question plus tard. Elle va dire, peut-être que les simanim sont que des rabbanan. Mais on a la réponse que Yaakov tout de suite dit, il va casser ça. Il dit, attends, mais je comprends pas. On vient de le voir dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Vous rappelez de la Mishnah?
Oui.
Vous allez faire la Khazara tout de suite. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on t'a dit que de la simla, du vêtement, qu'est-ce qu'on a appris? Rappelez-vous. Il fallait deux choses. Premièrement, il fallait un siman.
Et quelqu'un qui réclame.
Et deuxièmement, quelqu'un qui réclame. Ça veut dire que la Gemara te dit, on peut pas dire ça. Parce que de la Mishnah, on voit que du mot simla, on avait déjà appris qu'avec les simanis, ça marchait. Donc le mot c'est toujours en trop.
Ouais.
On a eu beaucoup de détails aujourd'hui, vous aurez dans la Khazara. Amré, donc dans les mots de la Gemara. Quand? Mi dekatneleu, tana le simanim gabe simla. Dekatane, et puisque le tana a enseigné les simanim déjà à propos de la simla, rappelez-vous ce qu'on a utilisé dans la Mishnah. Dekatane, parce que dans la Mishnah on a enseigné ma simla meyuchede, de la même manière que le vêtement est particulier, sheyesh ba simanim veyesh la tovin, qu'elle a des simanim. Ça veut dire que les simanim, on les a déjà appris du vêtement. Donc plus besoin du C. D'accord? Af, quand t'avais un chèche le simanim vesh l'otavim chayav, on a dit de même, toute chose qui a des simanim et qui a des personnes qui la réclament, chayav. Donc de là, je comprends que shmamin a des c, lave le simanim ou de hata. Je comprends que le mot c'est n'est pas venu pour nous apprendre les simanim. Donc retour à la case départ. Est-ce que le mot c'est nous sert à quelque chose?
Non.
Non.
Moi j'ai dit oui.
Attendez.
Ah, bon. Attends.
Rava en tout cas. Qu'est-ce qu'il dit Rava? Non, et c'est fini. Qu'est-ce qu'il dit Rava? Rava nous dit que le mot c'est ne sert à... Le mot c'est, c'est pas qu'il sert à rien, c'est qu'on ne sait pas à quoi il sert. Caché, on a une question. Et on a essayé de répondre, mais a priori on n'est pas arrivé à une réponse. Alors monsieur Bishpit, a priori, vous êtes plus intelligent que Rava.
J'ai une réponse. L'agneau, c'est c'est une créature qui est différente du bœuf et de l'âne, dans le fait que c'est un animal qui produit quelque chose.
Comme le crocodile, il
produit de la laine. Alors les deux autres animaux ne produisent pas. On peut dire qu'ils produisent des excréments, mais ce n'est pas leur fonction.
Oui.
Alors que l'agneau, la numéro un, c'est pas de manger, c'est parce qu'avant, on s'habillait avec le produit de la laine.
Vous n'avez pas compris ce que vous
dites. Donc, je suis en train de dire que peut-être qu'on on veut dire par là que si quelqu'un a trouvé cet agneau et qu'il a tondu l'agneau, cette laine qu'on a tondue et qu'on a fait un tapis avec, à qui elle appartient? Si le type il revient et il dit « Ah, c'est mon agneau !»
Bien sûr,
oui, monsieur. Il peut demander aussi les vêtements qu'on a tissés avec et les machins.
Mais c'est sûr, ça.
On
le savait déjà du bœuf.
Non, parce que le bœuf, c'est pas son boulot.
Mais si.
Le bœuf, c'est une charrue.
Mais à plus forte raison. Si, déjà le bœuf, que c'était pas son boulot. C'est pas son boulot. Et en plus, c'était une valeur insignifiante. Quand même, j'ai l'obligation de rendre les poils de la queue.
Mais attends, tu es venu dire tout à l'heure que un bonhomme se suffirait amplement qu'on lui rende déjà son agneau parce qu'il est bien content qu'on lui ait gardé.
Non, ça avait dit par rapport aux excréments.
Oui, mais alors.
Non.
Mais donc il y a une différence.
Non, justement, ça, si déjà dans le bœuf, j'ai l'obligation de rendre ces poils-là qui étaient insignifiants, à plus forte raison. À plus forte raison que l'agneau, que cette honte n'est pas insignifiante, c'est sûr que je devrais le rendre. Donc j'ai pas besoin de l'agneau. L'agneau ne m'a rien appris que je ne savais pas.
Sauf dans le cas où l'agneau est une machine qui produit quelque chose. Mais à qui
monsieur
Bitmus,
à plus forte raison. À plus forte raison.
À quoi chez quel?
Si déjà, la personne qui n'avait plus sa fonction, ce n'était pas sa fonction.
Mais c'est pour mettre les points sur lui.
Oui. Si déjà,
de parler de l'agneau.
Si déjà le bœuf, que ce n'était pas sa fonction, et pourtant tu me dis, il faut rendre quand même, non seulement le bœuf, mais il faut rendre aussi ce qui était avec le bœuf. À plus forte raison, je vous donne un exemple très simple. D'accord? C'est comme si, tout à l'heure, je donnais l'exemple de la Gemara. Je trouve une Gemara avec une feuille de papier à l'intérieur, une feuille de papier vide. Je prends cette feuille, je l'utilise. Est-ce que la feuille de papier a une valeur d'une fouta?
Non.
Non. Très bien. Maintenant, pas derrière.
Ça ne produit rien.
Écoutez bien. Pas derrière maintenant. D'accord? Il y a quelqu'un maintenant qui va me trouver une Gemara avec une feuille très importante à l'intérieur, avec une feuille avec des chidushim. D'accord? Je te dis, si déjà la feuille qui était insignifiante, j'avais l'obligation de la rendre, qui n'était pas une valeur d'une prouta, à plus forte raison que si cette feuille-là, elle a des chidushim dessus, que leur valeur est... C'est une valeur qu'on ne compte pas, à plus forte raison qu'il faut la rendre.
D'accord. Mais je ne veux pas dire que c'est le même cas, parce que le chidush, il ne va pas faire des petits, il va nous apprendre quelque chose de nouveau, il va faire des petits. Alors que si toi, tu roules dans une bagnole, tu fais tomber un citronnier, je le ramasse dans la rue, d'accord? Et je vais le planter dans mon jardin.
Oui.
Ce citronnier va me donner des récoltes.
Oui.
Et au bout d'un an et demi, il y a un type qui... Je reconnais le fruit, j'ai vu sur le marché. Ça, c'est mon citronnier que j'ai perdu, parce que j'en avais 74.
Non, ça, c'est pas un bon calcul. Parce qu'un citron, ça se vend sur le marché.
Oui.
D'accord. Donc un citron...
Et ben, la laine aussi, ça se vend.
Non.
La laine qui était sur le dos de l'agneau.
Non, mais deux secondes. Donc là, dans ce cas-là, on devra rembourser le citron. Pas les...
Pas Eh ben c'est ce qu'on est en train de dire.
Mais non.
C'est là que je vois le ridouche.
Non, mais c'est bien, pas du tout. Écoutez bien.
Est-ce qu'on doit rendre aussi la laine qui a été tondue?
La laine, il faut rendre la laine même. Vous me suivez? La laine même, il faut la rendre.
Et si elle va se perdre?
D'accord. Eh ben si elle va la perdre, il faut rembourser l'argent. Dans le citron.
Et si on en a fait un second, tapis qui vaut 100 fois le prix?
J'ai pas fini. Eh ben, dans le cas du tapis, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rembourser le prix de la laine et vous pouvez lui dire, si tu veux ta laine, tu payes le prix du tapis. Sinon, moi, je te rembourse le prix de la laine brute, il n'y a pas de problème.
Bah. On est bien d'accord là-dessus, mais est-ce que c'est pas ça ce que ça vient?
Non, pas du tout, mais non, pas du tout.
On n'est pas responsable.
De quoi?
Si la laine, elle s'abîme, parce qu'il ne vient pas tout de suite chercher son animal.
Très bien.
On n'est pas responsable de la laine qui s'abîme.
Non, mais si moi maintenant... La question que je me dis pose, si je trouve maintenant un objet, et moi je savais pas qu'il fallait le rendre, donc je l'ai pris, c'était de la laine, j'ai fait un beau tapis avec ça.
Okay.
D'accord?
Non, ça on n'a pas...
Fini? Très bien. Ok, au revoir.
On fait pas le tour de...
Ça, on n'a pas le droit, ça.
Vous pouvez faire un tour.
Ça n'a pas le droit.
Hmm?
Le droit.
J'ai pas le droit, maintenant si je l'ai déjà fait.
On comprend.
Mais je vais rembourser.
D'accord. Je rembourse quoi?
Parce que ça m'appartient pas.
Très bien, je rembourse quoi?
La valeur de...
Donc je lui donne le tapis?
Hein?
Je lui donne le tapis? Le tapis il vaut 1000 euros, sa laine elle valait 100 euros. Je lui donne 1000 euros?
Ouais.
Oui.
Réponds maintenant.
Ah ouais, une.
Parce que c'est avec sa laine que... Vous avez fait un profit que vous n'aviez pas reçu.
Mais lui, la laine, moi je lui donne 100 euros. Le prix de la laine.
C'est dommage.
Ou bien je lui achète une plaine.
Il doit payer une pousse, il ne doit pas démolir la maison, même un voleur.
Oui, ben, c'est normal.
Il doit y avoir une histoire dans ce...
Bien sûr.
Genre-là.
Très bien. Pour donc, pour répondre à la question de Sébis Mut, à plus forte raison. Si déjà tu me dis que... Si déjà tu me dis que j'ai l'obligation... Que quelque chose qui était d'une valeur insignifiante et que ce n'était même pas sa fonction... J'ai l'obligation de rendre, parce que c'était, ça fait partie du package, à plus forte raison que les tombes de l'agneau qui est fait pour ça. À plus forte raison qu'il faut les rendre. Maintenant, vous avez posé une question annexe. Vous avez demandé qu'est-ce qui se passe si on a tissé un vêtement avec.
Non, mais c'est même pas ça en vérité. Quand? J'étais en train de dire, puisqu'on est en train de chercher, qu'est-ce que ça vient nous apprendre de plus.
Rien.
Et moi, j'étais en train de dire, ça vient nous apprendre de plus que si tu as trouvé un outil de production. On produit pas des poils de la queue de la,
oui.
Du bœuf.
Donc, à plus forte raison.
Eh ben oui, ben ça vient nous dire, attention, même si c'était une machine-outil qui t'a produit des tailles...
Monsieur Bismuth, la logique du Calva Romer est comme ça. C'est-à-dire, quand j'ai un cas qui a un grand ridouche à m'apprendre et un petit ridouche à m'apprendre, je choisis le grand ridouche. Par exemple, si la Torah a besoin de me dire, si tu trouves une feuille de papier, il faut la rendre, dans la Gemara, et qu'à part ça, elle me dit, si tu trouves une feuille de papier avec des ridouchim, il faut la rendre, lequel des deux cas la Torah va me dire? Si elle a deux cas à me dire. Lequel des deux cas va me dire?
Le premier.
Qui est le plus...
Le premier.
Enfin, les deux sont sauvages.
Si déjà le premier, tu dois le rendre. Alors le deuxième,
le minimum.
Que si déjà ça, il faut le rendre, de toute façon que l'autre, il faut le rendre. Donc on reste sur notre conclusion, d'accord? On reste sur notre conclusion que, a priori...
Cet exemple-là, il est pas mal. Qu'avec le veau, parce qu'on a vu que le bœuf, ça fait partie de lui-même.
Oui.
On n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit. Donc, à plus forte raison pour l'agneau. Mais l'agneau, qu'est-ce qu'on apprend de lui? C'est que lui, il peut nous donner quelque chose qui, avec, on va faire un gain. Donc, ce n'est pas le cas du bœuf. En plus, il a une particularité, l'agneau.
Oui.
Et dans le cas, alors, qu'est-ce qu'on doit faire si, par exemple, de salaire, on en a fait un tapis, on a gagné de l'argent en plus? Donc, ça peut venir nous apprendre ça? Non?
Au contraire.
Par rapport à...
Mais à plus forte raison.
Non, parce que l'autre, c'est pas le même cas.
Non. Non, ça peut pas nous apprendre. C'est pas.
Si.
Non, parce que ça on aurait pu le trouver dans la tombe de la queue. Ça on aurait pu le trouver dans la tombe de la queue aussi. On aurait pu le trouver dans la tombe de la queue aussi. S'il a fait un porte-monnaie avec ça, il a fait avec ça un balai.
Non, mais on fait pas du commerce avec la.
Mais sûr qu'on fait.
Si, on fait les bracelets,
on fait des bracelets, on fait des super balais avec ça.
On fait des hameçons, on fait des pêches.
C'est très solide, c'est très très solide. Vous avez déjà reçu un coup d'une queue d'un bœuf?
Oui.
C'est mal, hein.
Ouais. Mon père me frappe avec ça.
Je vais arranger
avec un
nerf
de bœuf.
Non, un bœuf qui lui donne le coup.
Ah non, avec un nerf de bœuf, moi.
Vous savez que ça peut tuer quelqu'un? Un bœuf avec
une queue. Tuer au moins une mouche.
Non, ça peut tuer un homme.
Déjà, ça chasse.
Bon, si on est un peu, si on a un bon volume, il va avoir du mal à nous bouger. Mais c'est une force, c'est très très fort. Je sais pas si vous avez déjà vu. Hein. Moi, j'ai déjà vu.
Vous avez vu un bœuf?
Ouais, j'avais 3 ans.
Moi, j'ai déjà vu un bœuf donner un coup.
On se comportait mal, elle nous mettait dans le champ des.
Devant les bœufs.
Des vaches. Ouais. Et c'était loin. On tremblait, quoi. Ah, c'est fini.
Moi j'ai déjà vu.
Ça
vous a marqué, hein. J'ai déjà vu un taureau ou un bœuf en train de donner un coup avec sa queue contre une barrière. Mmh. Et je peux vous dire que la barrière, elle bouge. Ouais. J'avais l'impression qu'elle allait sauter. Moi, elle était solide. Mais si elle bouge, hein, c'est un coup. Ça peut tuer quelqu'un, sans problème.
Ah mais c'est des masses.
Quand t'as vu ça, t'as des barrières, des bœufs.
Il y a un os dans la queue du bœuf.
Bozo.
D'ailleurs, ça sert d'os.
Bon. Ok. Alors, deux secondes.
C'est toujours
accro. Non, ça m'a compliqué, j'ai eu mal à cette histoire de l'agneau et du bœuf, là.
Ah, parce que justement, tu vas voir dans la Khazara, tu vas réviser, on va montrer que chacun des cas nous a pris quelque chose. Alors, on va faire un petit tosfot quand même.
On pourrait poser une question, parce que Hachem,
on l'a perdu.
Il marche dans la Torah.
On l'a perdu qui?
Bah on l'a perdu le
quelque chose qui ne sert à rien.
Non, pas qui ne sert à rien.
Oui,
pour que l'homme, justement, il puisse apprendre quelque chose de ça.
Ça arrive, ouais. Ça arrive. C'est très rare, mais ça arrive.
Répète.
Non, la question qu'il pose, c'est que la Gemara arrive à une conclusion. La Torah a dit 4 choses. D'accord? Et la Gemara a réussi à expliquer 3 choses, mais la 4e a dit a priori, elle ne sert à rien, puisqu'on aurait pu l'apprendre les 3 premières. Donc la Gemara est restée sur une question de cachère. Donc Sézanne pose la question, il dit mais pourquoi la Torah, c'est pas normal. C'est fait exprès, vous savez. C'est fait exprès. Il y a un midrash qui dit comme ça. Il y a un midrash qui dit, c'est une tirage du Rabbi dans lequel il explique ça, il ramène le midrash qui dit que Rabbi Eliezer, dans le midrash, il dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que tout ce qui vient du nord, c'est le mal vient du nord. C'est écrit Mitzafon Tipatachara, c'est pas pour rien si on dit les gens qui viennent du nord. Quand là-bas il fait froid, c'est les gens du nord. Bon, pourquoi dans le monde, toujours, Syrie, ouais. Même les vents qui viennent du nord sont toujours dévastateurs, alors que les autres vents ne sont pas dévastateurs. Toujours, tout ce qui vient du nord n'est pas bon. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que toujours tout ce qui est du nord, c'est pas parfait? Pourquoi Kadosh Baruch Hu peut faire un monde parfait? Normal? Que tout ce qui est... D'accord? Écoutez bien ce qu'il dit le Midrash Rabbi Eliezer. Kadosh Baruch Hu, il dit, il a fait exprès. Comme ça, si un jour quelqu'un il va dire, c'est pas Dieu qui a créé le monde, on va lui répondre, on va lui dire, tiens, ça tombe bien. Ça tombe bien, le monde n'est pas parfait, est-ce que tu veux pas le parfaire si tu dis que c'est pas Dieu qui a créé le monde? Et là, dans ce cas-là, on va réaliser que on est limité, on peut pas, on est limité par les règles de la nature, et qu'on peut pas, et que le monde il est tel que Dieu l'a créé, et c'est pour nous rappeler qu'il y a un Dieu, et que c'est lui qui a créé, et il te rappelle que c'est moi qui ai créé l'outil, et j'ai fait exprès de le créer imparfait pour que tu te rappelles que c'est moi qui l'ai créé. Rabbi explique dans une sira, on avait étudié une fois ici un cours, il dit c'est la même chose pour la Torah. C'est la même chose pourquoi, hein, c'est la Iloula du Rabbi, là je dis. C'est la même chose pourquoi on voit que Kadosh peut refaire dans la Torah des imperfections. On voit par exemple quelque chose comme ça. C'est une imperfection ça. C'est pas bon, ton outil il est pas bon là, t'as mal prévu ton coup. Tu savais pas Dieu que quand on allait arriver à la Gemara, on n'allait pas trouver ton C. Pas seulement ça. Rabbi dit qu'il y a beaucoup de choses des fois, que selon le côté dévoilé de la Torah, des fois des choses que la Gemara n'est pas capable d'expliquer, mais quand on voit dans le Zohar, ça explique. Même question. Pour comment c'est possible que l'outil n'est pas parfait de manière à ce qu'on est obligé de faire appel au Zohar à la profondeur de la Torah? Très souvent, on a des choses comme ça que quand on va dans le sens simple de la Torah, c'est des histoires bizarres. C'est des histoires qui n'ont pas de sens. C'est des histoires comme le cours d'hier. D'accord? Et dès qu'on voit, on va à la profondeur de la Torah, on voit ce qu'il y a derrière, là on comprend que celui qui a coupé du bois dans la paracha de la semaine dernière, il y a quelque chose, il y a un enjeu derrière. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas écrit clairement tout ça dans la Torah? Et la réponse est là, c'est que c'est fait exprès. Kadosh Baruch Hu a fait exprès de faire de manière imparfaite pour qu'on se rappelle que la Torah n'est pas venue du ciel, enfin n'est pas venue, pardon, du ciel, non, elle est venue du ciel, elle n'est pas venue comme ça, par hasard, d'accord, mais elle n'est pas venue de Mars, elle nous a été donnée par Kadosh Baruch Hu, et justement pour se rappeler que le cerveau humain est limité, qu'il y a des imperfections. Ça, c'était une parenthèse pour répondre à la question de M. Daniel. D'accord, donc je voudrais juste faire un petit tosfot, on a l'habitude de faire toujours un petit tosfot, et je finis avec ça. Alors, l'Egizat de Navo, on va faire le tosfot, donc c'est le tosfot, l'Egizat de Navo, c'est 4 tosfot avant la fin de la page. L'Egizat de Navo. 4 tosfot avant la fin de la page. Alors vous allez à la fin de la page. Dernier tosfot, c'est Prat. Avant-dernier, c'est WC. Là, c'est la tosfot.
Ouais.
Ouais. Donc le tosfot qui commence, l'Egizat. On avait dit que le C, il nous apprend quoi? D'accord? Qu'est-ce qui nous apprend le C? Qu'est-ce qui nous apprend le taureau? Le taureau nous apprend qu'on a l'obligation de rendre même l'Egizat Navo la tonte de sa queue. Très bien. Soit tu poses la question suivante. Il dit, Vim Thomas, si tu veux me poser la question suivante. Im Yeshbash Aveprouta, Pshita. Si cette tonte, si la tonte de la queue a la valeur d'une Prouta, alors Pshita, c'est évident. C'est sûr qu'il faut rendre. C'est normal. De la même manière que si j'avais trouvé une Prouta, j'aurais dû la rendre. C'est sûr que cette tonte aussi, je dois la rendre. Im enbash avec pruta. Et si elle n'a pas une valeur de pruta, amematinan le kaman mashava. Plus tard, on va dire dans la Gemara que tout ce qui n'a pas une valeur de pruta, on n'a pas l'obligation de rendre. Donc en d'autres termes, la question que Tosfot pose, il dit, je ne comprends pas. Si cette tonte de laine, si cette tonte, pardon, de la queue n'a pas une valeur de pruta, pourquoi tu dois la rendre? Et si elle a une pruta, c'est évident qu'il faut la rendre. Donc on comprend. Donc après Tosfot dit, tu me dis que pourquoi on a amené le mot. Tu me pourquoi on a amené le mot du chor, le mot du veuf, c'est pour t'apprendre la tonte de sa queue, mais c'est a priori. Ou bien elle a déjà une prouta, donc c'est évident. Et si elle a pas une prouta, alors pourquoi je devrais la rendre? C'est pas normal. Réponse au soir, écoutez bien la réponse, c'est très intéressant. Ziyesh Lema, on peut répondre. Deit Tarir, qu'on a toujours besoin. Chez Chayav le Goza Beita, Afal Pishen Bash la Prouta Bisha chez Gazda. Ah, ça c'est un ridouche très fort au soir. Écoutez bien ce qu'il dit au soir. Au soir, il dit comme ça. Vous savez que quand on entretient un âne ou quand on entretient un taureau, il faut le tondre de temps en temps. Il faut le tondre, ça veut dire il faut tondre pour que ça repousse mieux, il faut le tondre. Très bien. Maintenant, imaginez-vous que moi, je garde à la maison un taureau que j'ai trouvé. Donc, il y a un laps de temps que je dois le garder à la maison. Je suis dans mon étable. Je le garde. Et je vois que, Baruch HaShem, ses poils ont poussé. Donc, je vais les couper. Le problème, c'est quoi, hein? C'est que quand je vais le couper, ils n'auront plus la valeur d'une pruta. Tant qu'ils sont sur l'âne, sur le taureau, ils font partie d'un taureau qui a une valeur beaucoup plus d'une pruta. Moi, je me pose la question, est-ce que je dois les couper, puisque en les coupant, ils vont perdre leur valeur, ils n'auront pas une valeur de pruta, d'accord? Et première question, c'est est-ce que je dois les couper? Et deuxième question, une fois que je les ai coupés, qu'est-ce que je fais avec? Parce qu'une fois que je les ai coupés, ils n'auront plus la valeur de pruta.
Ils n'ont pas.
Je pense que vous les avez avant alors.
Non.
On parle des petits poils de l'entretien.
Voilà, de l'entretien de l'animal. Exactement. Mais, on peut en faire quelque chose avec. Mais ils n'ont pas une valeur de pruta.
Comme les cheveux.
Ils ont une valeur.
Ouais, si tu as coupé les cheveux, ça vaut rien. Si tu as coupé des cheveux qui font un mètre de long, tu
voilà.
Fais avec.
Là, la question qu'on se pose, est-ce que dans l'entretien, quand je vais couper quelque chose qui n'a pas une valeur de pruta, mais qui a quand même une valeur, peut-être le propriétaire voulait les garder. Possible. Peut-être qu'il peut faire quelque chose avec. On peut faire quelque chose. On peut faire par exemple des poils de balai avec. C'est très solide. Très solide. Il y a des gens qui font des bracelets avec. Vous voulez faire un bracelet avec.
Ça fait plus partie des poils d'entretien.
Donc, écoutez bien ce qu'il dit Tosfos. Il dit le ridouche que j'ai envie de nous apprendre. C'est que j'ai l'obligation de faire l'entretien. Et que même si quand je vais faire l'entretien, les chutes auront moins d'une pruta, ces chutes-là, je dois les garder. Donc réponse aux deux questions. Est-ce que je dois faire l'entretien?
Oui.
Et quand je vais faire l'entretien, il y aura des poils qui auront moins d'une pruta. Est-ce que j'ai l'obligation de les garder? Oui. Même si c'est moins d'une pruta. Ça, c'est un fait du
chien. Alors tu es en train de me dire que si je rencontre un sac avec du surgelé dedans,
oui.
Encore surgelé,
oui.
Je dois non seulement le garder et le mettre au congélateur.
Bien sûr, évident.
Parce que si je le rends complètement décongé dans une semaine, évidemment, ça aura péri entre
bien
les
sûr, mains. 100%. On a l'obligation de préserver. Par contre, pour répondre à notre question, M. Bismuth,
on se fait rembourser après.
On se fait rembourser les frais.
Oui,
les frais de placement au congélateur.
D'accord.
Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.
Très bien.